Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Ninartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le volume de Nathalie Franck, élaboré avec Aime Omer, appartient au champ des psychothérapies familiales et des guides de pratique clinique. Il présente un programme en 13 séances destiné aux parents confrontés, à des enfants ou adolescents dont le comportement inverse la hiérarchie familiale. Dans ce cadre, le jeune prend une position de contrôle sur le foyer et les refus parentaux peuvent déclencher colère, menaces, crises ou violences. Le livre ne traite pas ce phénomène comme un diagnostic autonome, mais comme une dynamique relationnelle qui exige une réponse structurée. Son objectif central consiste à aider les parents, souvent isolés et épuisés, à modifier leurs propres réactions pour réduire les escalades et restaurer une autorité ferme, prévisible et non violente. La démarche combine psychoéducation, thérapie comportementale et cognitive, mindfulness et résistance non violente. Sa forme en séance, enrichie de cas et de témoignages, en fait à la fois un outil pour professionnels et un support accessible aux familles accompagnées. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le comportement tyrannique comme inversion de la hiérarchie familiale. Le point de départ du livre est une définition clinique du comportement tyrannique centrée sur la relation familiale plutôt que sur une étiquette psychiatrique. Le jeune ne se contente pas de désobéir ponctuellement, il occupe progressivement une position de pouvoir dans la maison. Les décisions quotidiennes, les horaires, les achats, les écrans ou les déplacements peuvent devenir soumis à ces exigences. Toute opposition parentale risque alors de produire une crise, une menace ou une violence, ce qui pousse les adultes à céder pour préserver une paix immédiate. Ce cadrage est essentiel, car il évite deux erreurs fréquentes. La première consiste à réduire le problème à un manque de discipline, ce qui favorise des réponses autoritaires et souvent contre-productives. La seconde consiste à considérer les parents comme seuls fautifs, ce qui augmente honte et isolement. Le livre propose plutôt de repérer une dynamique de domination, de peur et de concessions répétées. Cette compréhension permet de déplacer la question pratique. Il ne suffit pas de convaincre le jeune de changer. Il faut créer un cadre familial où le contrôle par menace perd progressivement son efficacité. Deuxièmement, un programme centré sur les parents plutôt que sur la motivation du jeune, une originalité majeure du programme réside dans son choix de commencer par les parents. Le livre part du constat clinique que les enfants ou adolescents concernés sont souvent peu disponibles pour une aide directe, surtout si cette aide menace leur position de contrôle. Attendre une adhésion active du jeune peut donc maintenir la famille dans une impasse. La prise en charge parentale ne vise pas à désigner des coupables, mais à redonner aux adultes une marge de manœuvre. Les séances aident les parents à analyser leurs réactions, leurs peurs, leurs renoncements et leurs tentatives de reprise de contrôle. Cette stratégie repose sur un principe comportemental simple. Mais même si le jeune refuse de participer, ses comportements se produisent dans un environnement relationnel. Quand les réponses parentales deviennent plus cohérentes, moins réactives et moins soumises à la panique, certaines récompenses involontaires de la tyrannie diminuent. Le programme cherche donc une amélioration indirecte du comportement du jeune par transformation de la dynamique familiale. Cette perspective est pragmatique, car elle travaille avec les personnes déjà présentes dans la demande de soins et capables de modifier leurs propres actes. Troisièmement, hyper-accommodation parentale et schéma répétitif de escalade, le livre accorde une place importante à la notion de hyper-accommodation. Elle désigne les ajustements excessifs que les parents adoptent pour éviter les crises. Ces concessions peuvent paraître rationnelles à court terme. Autoriser plus de temps devant les écrans, renoncer à une sortie, modifier un repas ou éviter un sujet sensible permet parfois de calmer la situation. Mais le coût augmente avec le temps. Le jeune apprend que la pression fonctionne, tandis que les parents perdent confiance dans leur capacité à poser une limite. Le programme analyse aussi les schémas de escalade, où chaque partie intensifie sa réponse. Un refus parental produit une colère, la colère entraîne une menace, la menace provoque un cri ou une capitulation, puis le cycle se répète. Comprendre ces séquences est plus utile que chercher un coupable unique. Les séances invitent les parents à identifier les moments critiques, les signaux précoces et les réponses qui nourrissent involontairement la crise. La logique proposée consiste à ralentir le conflit, différer certaines réactions, sortir de la lutte de pouvoir immédiate et réintroduire des règles stables. Cette analyse rend possible une intervention progressive, moins dépendante de la force ou de la persuasion. Quatrièmement, résistance non violente. Nouvelle autorité pratique de reprise de présence, le programme mobilise la résistance non violente et la nouvelle autorité, associée aux travaux de Aime Omer. Cette approche refuse deux réponses symétriques mais inefficaces. Elle ne recommande ni domination brutale ni retrait passif. Les parents apprennent à affirmer une présence ferme, calme et durable. La déclaration de non-violence joue un rôle central. Elle permet aux adultes de formuler clairement que les violences, menaces ou ordres abusifs ne seront plus acceptés, ou sans promettre de punition immédiate, ni chercher la confrontation. Le sit-in constitue un autre outil marquant. Il consiste à manifester une présence déterminée face à un comportement grave, dans un cadre calme, non humiliant et non agressif. Son intérêt tient au déplacement de la logique éducative. Il ne cherche pas à gagner une bataille verbale, mais à montrer que les parents ne disparaissent plus devant la peur. La vigilance renforcée, le refus des ordres imposés par le jeune et la protection de la fratrie complètent cette orientation. Le livre présente ainsi autorité et lien affectif comme compatibles. La fermeté devient moins une question de contrôle immédiat que de constance, de visibilité et de refus de la violence. En dernier lieu, réseau de soutien, protection de la fratrie et enjeux autour des écrans, le livre ne limite pas la prise en charge au face-à-face entre parents et jeunes. Une séance entière porte sur le réseau de soutien, ce qui révèle une compréhension systémique du problème. Les familles concernées vivent souvent dans le secret, par honte ou par peur du jugement. Cette solitude renforce le pouvoir du comportement tyrannique, car les parents se sentent sans témoin et sans relais. Mobiliser des proches, des professionnels ou des personnes de confiance permet de rendre la situation moins invisible et de soutenir les décisions parentales. Le programme aborde aussi la protection de la fratrie. Les frères et sœurs peuvent subir la violence, les menaces, les restrictions de vie familiale ou une attention parentale absorbée par les crises. Les inclure dans la réflexion évite de réduire le soin au seul enfant qui domine. Les séances traitent enfin des écrans et de la déscolarisation, deux domaines fréquents de conflits et de contrôle. Le livre ne présente pas ces thèmes comme de simples mauvaises habitudes, mais comme des terrains où se jouent règles, évitement, isolement et pouvoir. Cette extension rend le programme plus concret, car elle relie les principes thérapeutiques aux situations ordinaires les plus tendues. En conclusion, ce livre convient aux parents qui vivent sous la pression de crises répétées, de menaces ou de violences familiales, mais aussi aux psychologues, psychiatres, éducateurs et thérapeutes qui accompagnent ces situations. Son bénéfice principal est de fournir une progression claire, séance après séance, pour passer de la sidération à des actions observables. Les lecteurs y trouvent un vocabulaire pour nommer la dynamique tyrannique, des repères pour limiter les escalades, des outils de résistance non violente et une réflexion sur le soutien extérieur. Sur le plan intellectuel, le livre aide à distinguer comportements tyranniques, diagnostics psychiatriques et difficultés éducatives ordinaires, ce qui réduit les explications simplistes. Par rapport à plusieurs ouvrages de conseil parental, il se distingue par son ancrage clinique et par son choix stratégique de travailler prioritairement avec les parents, même si le jeune refuse les soins. Par rapport à des manuels plutôt RIC, il se démarque par sa structure en 13 sens, utilisable dans un cadre de groupe ou de suivi professionnel. Sa force tient donc à une combinaison rare entre méthode, prudence clinique et outils concrets. Il ne promet pas une solution rapide, mais propose un cadre réaliste pour reconstruire autorité, sécurité et présence parentale. Si vous souhaitez soutenir Nathalie Franc, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.